Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher monsieur l'abbé, je crois que tout le plus important vous a été dit déjà, non seulement pendant ces 6 années de séminaire, 7 années même si l'on peut dire de séminaire, mais également dans cette belle et chaleureuse prédication de notre cher chanoine Couserand, dimanche, lorsqu'il a fêté ici son jubilé sacerdotal, et également, bien sûr, dans cette magnifique homélie que vous a adressée hier Monseigneur Licinio Rangel. Tout est dit depuis longtemps sur le sacerdoce, sur le prêtre, et aujourd'hui, eh bien, je crois, nous ne pouvons dire qu'une chose, eh bien, c'est notre joie, votre joie sans doute, et notre joie à tous ici, de voir ces 17 nouveaux prêtres consacrés depuis hier pour l'éternité, pour offrir le sacrifice éternel qui ouvre les portes du paradis, les portes du ciel à toutes les âmes qui ont soif de Dieu. Oui, c'est une chose immense que le prêtre, et nous ne mesurerons jamais ici-bas et même peut-être dans l'éternité ce que c'est qu'un prêtre. Oui, notre joie à tous, la joie très certainement de vos parents, de vos chers parents qui sont ici, et leur émotion très certainement, et c'est une grande et belle récompense pour eux très certainement de voir leur fils monter à l'autel aujourd'hui, après tant d'années d'efforts, d'amour, d'affection, pour vous éduquer, vous donner cet amour de Jésus-Christ, cet amour de l'Église, cet amour de la messe, l'amour de l'Eucharistie, eh bien, leur récompense est là aujourd'hui, en attendant la récompense éternelle, qui certainement viendra plus tard, beaucoup plus tard, espérons. La joie de vos parents, la joie de vos confrères aussi, qui vous ont connu pendant ces années de séminaire, et je ne vous dirai pas, vous le savez peut-être, ce qu'ils pensent de vous. Je pourrais vous dire éventuellement ce que pensent de vous vos professeurs, votre directeur, mais je ne vous le dirai pas non plus. Enfin, c'est donc notre joie à tous ici et notre confiance de vous voir monter à l'autel. Nous savons, eh bien, que vous serez un bon prêtre. Certaines âmes curieuses parfois se demandent ce qui se passe dans l'âme d'un prêtre, d'un jeune prêtre, d'un nouveau prêtre, lorsqu'il monte à l'autel. C'est une curiosité, cela, qui n'est pas bonne. C'est une question qu'il ne faut jamais demander, qu'il ne faut jamais poser à un jeune prêtre. Quelle impression cela fait? Car c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Et si quelqu'un veut savoir ce qui se passe dans l'âme d'un jeune prêtre au moment où il monte à l'autel pour la première fois, eh bien, je crois qu'il suffit qu'il se tourne vers la croix, vers Jésus-Christ, vers le Sacré-Cœur, au moment d'offrir la grande messe, la messe éternelle, au moment de monter au calvaire, sentiment de joie. Oui, car Jésus-Christ était joyeux lorsqu'il montait au calvaire. Il était joyeux lorsqu'il offrait son âme, lorsqu'il remettait son âme entre les mains de son Père. Joyeux, car c'était l'acte par lequel, eh bien, précisément, il aimait au maximum de sa puissance divine et humaine, l'acte de son plus grand amour, et donc la joie d'aimer, eh bien, c'est un peu cette joie, sans doute, qui habite votre cœur et votre âme, mais également la crainte, bien sûr, la douleur chez Jésus-Christ, douleur physique, douleur humaine, et chez le prêtre, la crainte, car ce n'est pas rien, quand même, que d'approcher de façon si intime le mystère très saint, le mystère central de notre sainte religion, de notre rédemption. Oui, mélange de joie et de crainte. Et donc, si quelqu'un veut comprendre un peu ce qui se passe dans l'âme de notre nouveau prêtre, eh bien, qu'il scrute, qu'il pénètre, qu'il essaie de pénétrer un peu le mystère du Sacré-Cœur. Et là, peut-être, comprendra-t-il un peu ce que c'est qu'un jeune prêtre qui monte à l'autel pour la première fois. Oui, dans quelques instants, cher monsieur l'abbé, vous allez prononcer ces paroles qu'un homme n'a pas le droit de prononcer. Vous allez vous pencher pour la première fois sur un morceau de pain et vous allez dire ces paroles ineffable, ceci est mon corps. Et puis vous vous pencherez sur un calice avec un peu de vin et vous direz en toute vérité, ceci est le calice de mon sang. Et ces paroles, vous les prononcerez en toute vérité, ainsi que vous l'a rappelé Monseigneur Rangel hier. Vous direz, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Car si c'est vous qui prononcerez les mots dans leur matérialité, vous savez, nous savons, qu'en fait, à ce moment-là, ce n'est pas vous qui agirez, mais c'est Jésus-Christ qui agirait. Vous lui prêterez vos lèvres, vous lui prêterez vos mains, mais c'est lui qui, en fait, prononcera ces paroles éternelles qu'il dit depuis toujours et qu'il prononcera dans toute l'éternité, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Oui, tout à l'heure, je crois qu'en toute vérité, eh bien, vous ne serez plus vous-même. On dit parfois que le prêtre est alter Christus, et cela est vrai, bien sûr. Je ne vais surtout pas contredire cela. Le prêtre est alter Christus, mais il me semble qu'à l'autel de la messe, au moment de la consécration, le prêtre est Christus. Il est le Christ. Il n'est pas un autre Christ, il est véritablement le Christ. L'apparence physique n'est pas là, l'apparence sensible n'est pas là, mais le Christ est là. La personne du Christ est là, qui, par le prêtre, prononce les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et à ce moment-là, eh bien, vous tiendrez entre vos mains consacrées, vous tiendrez le Sauveur du monde. Vous tiendrez le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, vous tiendrez l'hostie. Vous pourrez faire ensuite de l'hostie eh bien, ce que vous voulez. C'est une chose incroyable cela. Vous pourrez faire de l'hostie ce que vous voulez. Vous pourrez bien sûr la consommer, vous pourrez la donner aux âmes, vous pourrez en faire l'usage que vous voulez, si l'on peut dire. Le prêtre peut disposer de l'hostie selon son cœur, selon son désir, mais en fait, si vous voulez véritablement user de l'hostie comme un prêtre doit en user, eh bien il faudra toujours vous souvenir qu'en fait, l'hostie ne vous appartient pas. L'hostie n'est pas à vous. L'hostie ne vous appartient pas, mais c'est vous qui appartenez à l'hostie. Oui, le prêtre appartient à l'hostie. Le prêtre appartient à l'Eucharistie. Si vous voulez savoir ce qu'est un prêtre, eh bien je crois que c'est cela qu'il faut méditer. Le prêtre appartient à l'hostie. L'hostie n'est pas sa chose, l'hostie n'est pas sa propriété, mais c'est lui le prêtre qui est la propriété, qui est la chose, l'organe, l'instrument de l'Eucharistie. Cela est immense. Cela est immense, bien sûr, d'être l'instrument, le pauvre instrument de l'Eucharistie, mais je crois que si vous voulez rester prêtre, être prêtre et demeurer prêtre saint toute votre vie et dans l'éternité, il faudra toujours que vous reveniez à cette pensée, à savoir que vous êtes la propriété de l'hostie, que vous appartenez à l'hostie. Elle est votre maîtresse et que veut l'hostie ? Elle veut se servir de vous. Elle veut d'abord eh bien, vous communiquer un peu de ce qu'elle est. Elle veut même vous communiquer tout ce qu'elle est. Et le bon prêtre est celui qui précisément devient semblable à l'hostie dont il est l'instrument. Et donc vous devrez d'abord, pour être un saint prêtre, un bon prêtre, vous devrez être d'abord hostie. C'est là la première chose que doit être un prêtre, être hostie. Être hostie, c'est-à-dire vivre au fond de vous-même, dans votre réalité intime, votre réalité intérieure, vivre les mêmes vertus intérieures qui sont celles de l'hostie, qui sont celles de Jésus-Christ, qui sont celles du souverain prêtre et de la souveraine hostie, de la souveraine victime. Donc n'oubliez pas précisément, et c'est à cela sans doute que l'on pense lorsque l'on dit qu'il faut être hostie, que vous devrez d'abord être victime. Oui, vous devrez être la première, ou la deuxième après Jésus-Christ, bien sûr. Vous devrez être d'abord la victime de votre sacerdoce. Vous voulez sauver les âmes avec Jésus-Christ. Vous voulez convertir le monde, et vous avez raison, il faut vouloir convertir le monde, même si... mais il faut vouloir convertir le monde. Eh bien, n'oubliez jamais que vous convertirez les âmes, vous convertirez le monde, si d'abord vous êtes victime sainte, victime pure, victime sans tache. Si vraiment vous voulez faire au monde cette miséricorde que vous voulez lui faire, eh bien, commencez par être victime, comme l'hostie avec l'hostie. Devenez hostie. Que l'hostie vive au fond de vous-même avec ses sentiments d'amour, de vénération pour son père et d'amour et de miséricorde pour ses frères. Soyez hostie au fond de vous-même. Il faut bien que vous reviviez en vous-même un peu le mystère de l'hostie. Lorsque nous regardons l'hostie, bien sûr, nous voyons tout autre chose, en fait, que sa réalité. Nous voyons les apparences du pain, nous voyons la forme, la blancheur du pain, de l'hostie, de ce qui était une hostie de pain, mais en fait, nous ne voyons pas la réalité qui est là, présente. Nous ne voyons pas Jésus-Christ. Nous ne voyons pas le souverain prêtre et la souveraine victime qui est là, présente, vivante, et dont le cœur bat dans l'hostie. Nous ne le voyons pas, et pourtant, Jésus-Christ est là, dans l'hostie. Eh bien, il faut que le prêtre revive un peu le même mystère, oui, que le prêtre ne conserve de l'homme que les apparences. Bien sûr, vous gardez toutes les apparences de l'homme, vous n'êtes pas différent extérieurement de ce que vous étiez hier matin. Les apparences sont les mêmes, l'allure est la même, la voix est la même, les mains sont les mêmes, mais au fond de vous-même, vous êtes tout autre chose qu'un homme. L'homme est toujours là, bien sûr, mais vous êtes le Christ. Vous êtes habité par la puissance du Christ. Vous êtes détenteur de la puissance, de la toute puissante miséricorde du Christ. Et vous n'êtes plus donc le même qu'hier. Non, cela est impensable. Vous êtes prêtre. Vous êtes prêtre. On ne pourrait que répéter cela pendant des heures. Et on ne redirait jamais deux fois la même chose. Vous êtes prêtre. Mais qu'est-ce qu'un prêtre? Eh bien, le prêtre est victime, oui, avant d'être prêtre. Avant d'être sacrificateur, vous êtes d'abord sacrifié. Votre raison d'être, votre raison de vivre, votre raison d'aimer ne doivent plus être empruntées à votre cœur d'homme, à votre esprit d'homme, à votre humanité, mais votre raison d'être, votre raison d'agir, votre raison d'aimer, votre raison de parler, elles sont prises dans le cœur de Jésus-Christ, dans votre cœur de prêtre, votre cœur consacré. Oui, soyez d'abord donc hostie. Faites taire en vous tous les raisonnements humains, tous les calculs humains. N'invoquez en vous, dans votre vie, dans vos pensées, dans vos attitudes, que des raisons puisées dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et alors vous serez victime, car cela est crucifiant. Cela est crucifiant d'être livré à la foi, d'être livré totalement à l'espérance, d'être livré totalement à la miséricorde. Et donc vous serez prêtre, vous serez victime, et donc vous pourrez ensuite vivre en tant que prêtre. Car il ne suffit pas d'être prêtre, il faut encore ensuite agir comme prêtre. Il faut agir comme hostie. Il faut que le prêtre, lorsqu'il parcourt les routes de notre monde aujourd'hui, eh bien, produisent un peu la même impression et les mêmes effets que notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'Évangile nous dit, eh bien, qu'il passait, qu'il traversait les villes, bene faciendo. Oui, vous passerez au milieu des hommes en faisant le bien. Voilà le rôle du prêtre, faire le bien. Faire le bien, attention, je ne dis pas faire plaisir, chatouiller les oreilles avec des discours qui plaisent ou qui font plaisir. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux gens, il ne s'agit pas de plaire aux âmes, certainement pas. Malheur aux prêtres. Malheur aux prêtres qui chercheraient à plaire aux âmes, non, certainement pas. Il s'agit de leur faire du bien. Leur faire du bien, d'abord en leur disant la même chose que leur disait Jésus-Christ. En leur tenant les mêmes discours que Jésus-Christ, les mêmes propos que Jésus-Christ, en leur livrant l'enseignement de Jésus-Christ, tout simplement, en leur annonçant l'Évangile, comme l'a fait saint Paul, et comme l'ont fait tous les papes et tous les évêques et tous les prêtres du monde jusqu'à un certain concile dont nous ne parlerons pas. Oui, rappelez tout simplement aux âmes l'Évangile. N'inventez pas d'histoire personnelle. N'ayez pas d'idées personnelles. N'ayez pas d'opinion personnelle. N'essayez pas d'être original. Répétez l'Évangile. Répétez l'Évangile. Et là, vous ferez du bien aux âmes, même si ça ne leur plaît pas toujours. car il arrivera parfois que le rappel de l'Évangile ne plaise pas aux âmes, qui, malheureusement, même chez les meilleurs, sont toutes un peu infectées de l'esprit du monde. Toutes, tous, nous sommes empoisonnés par l'esprit de ce monde dans lequel nous vivons. Tous, nous sommes un petit peu marqués par cet esprit du monde. Eh bien, faites-leur d'abord du bien en les écorchant s'il le faut et en leur rappelant l'Évangile. Il ne s'agit pas de vouloir les écorcher, bien sûr. Notre but n'est pas de faire souffrir les âmes, mais au contraire de leur faire du bien, de leur rappeler l'Évangile. Eh bien, faites-leur d'abord ce bien en leur rappelant qu'il y a une vérité, qu'il y a une loi, qu'il y a des préceptes et qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut ici-bas, si du moins on se dit chrétien, si du moins l'on veut sauver son âme, si du moins l'on veut honorer et glorifier Jésus-Christ, comme on le dit. Alors faites-leur d'abord ce bien de leur rappeler la vérité sans compromission. Bien sûr, il faudra peut-être l'adapter afin que les oreilles puissent comprendre cette vérité, l'adapter, la mettre à leur portée sans doute, mais cela, ce n'est pas trahir la vérité, c'est l'adapter tout simplement aux esprits, aux oreilles de nos contemporains, mais ne falsifiez jamais la vérité. Et il est facile, il est tentant à certaines heures difficiles, eh bien, de ne pas être, il est facile plutôt d'être tenté, d'amoindrir un peu la vérité, d'amoindrir l'Évangile, de diminuer l'Évangile, afin de ne pas trop faire grincer les dents ou les oreilles. Alors faites d'abord ce premier bien aux âmes, de leur rappeler la vérité, cette vérité qui les libérera, cette vérité qui est la première miséricorde dont elles ont besoin. Et puis ensuite, bien sûr, eh bien, livrez-vous à ce ministère auprès des âmes, mais qui prolongera ce bien que vous leur aurez fait dans la prédication, dans la parole, dans l'enseignement. Livrez-vous à ce ministère des âmes qui est un ministère de miséricorde, comme le ministère de la prédication, ministère qui est destiné à relever les âmes, à les soulever, à les éduquer au sens propre du mot. Il s'agit d'éduquer les âmes, c'est-à-dire de les sortir de l'ornière du péché pour les conduire vers le paradis, les conduire vers le bonheur, les conduire vers la joie, les conduire vers la sainteté, vers la vertu, vers la perfection. Il s'agit donc de les relever, de les encourager, de les exhorter, de leur rendre peut-être un petit peu cette espérance quand vous verrez des âmes blessées par le péché, des âmes qui sont meurtries par la vie, des âmes persécutées par le monde. Eh bien, il s'agit justement à ces âmes-là de leur dire peut-être cette parole qu'on ne dit pas assez. Leur redire cette parole de Saint Jean que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il leur a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la grande prédication du prêtre. Et voilà ce qu'il faut traduire ensuite en actes, dans le ministère de la confession, dans la direction des âmes. Chaque fois que vous serez en contact avec les âmes, d'une façon ou d'une autre, prêchez-leur cette grande vérité que Dieu a tellement aimé le monde que Dieu ne peut pas les abandonner. Ce n'est quand même pas pour rien que Jésus-Christ nous a envoyé son Fils, qu'il a demandé, si l'on peut dire, à son Fils de mourir sur la croix. Ce n'est pas pour nous abandonner au péché, ce n'est pas pour nous abandonner à l'enfer, ce n'est pas pour nous abandonner au malheur, au contraire, eh bien c'est pour que nous ne périssions pas. Et donc, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos déchéances humaines, devant le plus grand pécheur que soit, le plus grand bandit que la terre ait jamais porté, Vous pouvez encore lui dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que vous ne périssiez pas. Et donc, si vous faites un acte de foi en Jésus-Christ, un acte de foi dans le Sacré-Cœur, eh bien vous pouvez sauver votre âme et vous pouvez connaître une joie que peut-être jusqu'ici le monde vous a refusée. Voilà le bien à faire aux âmes, leur prêcher la vérité et cette grande vérité de la miséricorde de Dieu qu'ensuite, eh bien, vous leur distribuerez dans le ministère des âmes, le ministère des sacrements, que ce soit dans la confession, que ce soit dans la direction, que ce soit dans la distribution de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que donner la communion aux âmes, que donner la communion à une âme? Je ne comprends pas, quant à moi, comment un prêtre peut abandonner ce ministère et confier ça à des religieuses, aussi saintes soient-elles. ou à des âmes laïques aussi saintes, aussi pieuses soient-elles, alors que c'est le plus grand cadeau que l'on puisse faire à une âme, lui donner le Sacré-Cœur. Lui donner le Sacré-Cœur pour qu'elle en vive et qu'elle sorte de sa misère et de son malheur et la conduire ainsi vers le paradis éternel, vers le bonheur. Mais quelle plus grande joie pour un prêtre, après avoir célébré le saint sacrifice de la messe, que de déposer le Sacré-Cœur dans une âme. Qu'est-ce qu'un prêtre peut faire de plus beau et de plus grand, que ce soit dans le sacrement de la pénitence, bien sûr, mais dans ce sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre appartient à l'Eucharistie et il doit donner les âmes à l'Eucharistie. Lorsque le prêtre dépose la communion, l'hostie sur une langue, en fait, il donne cette âme à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un prêtre peut faire de plus beau? Voilà, que de permettre à Jésus-Christ, permettre au Sacré-Cœur de prendre possession d'une âme. Si ce n'est pas un ministère sacerdotal, cela, je ne vois pas ce que nous faisons ici. Comment peut-on abandonner cela à d'autres, aussi saints, aussi pieux ou vertueux soient-ils, peu importe cela. Alors soyez prêtres, oui, soyez prêtres, soyez victimes. Et ensuite, eh bien, traverser le monde en faisant le bien, en faisant du bien. Donner la miséricorde aux âmes. Vous êtes depuis hier détenteur de la plus grande puissance qui soit sur la terre. Regardez vos mains. Oui, bien sûr, apparemment, elles sont identiques à ce qu'elles étaient hier matin. Mais depuis, eh bien, est intervenue l'onction sacerdotale. Et ces mains qui conservent leur qualité naturelle et qui sans doute seront toujours aussi agiles à faire de la musique et de la belle musique, je l'espère du moins, car la grâce ne détruit pas la nature, eh bien ces mains ont acquis en plus un pouvoir immense qui est le pouvoir de faire ce que réalisaient les mains de Jésus-Christ. Regardez vos mains et essayez de mesurer dans ces mains, dans les mains d'un prêtre, et c'est pourquoi il est bon, il nous est doux même de baiser les mains d'un jeune prêtre. Qu'est-ce que nous baisons en baisant les mains d'un jeune prêtre? Eh bien, nous baisons le Sacré-Cœur, nous baisons la miséricorde de Dieu. Voilà ce que nous embrassons en embrassant les mains d'un prêtre, car dans ses mains, combien de pardons sont enfermés? Combien d'absolution donnerez-vous? Combien de communion donnerez-vous aux âmes? Combien d'encouragement, combien de bénédictions donnerez-vous aux âmes? Combien de miséricordes sont ainsi enfermées dans ces mains qui sont toujours des mains d'hommes, mais qui sont devenues les organes de la miséricorde? Alors, monsieur l'abbé, eh bien, soyez heureux, bien sûr, soyez fiers, soyez joyeux, et soyez prêtres, soyez hosties. Soyez hostie, soyez ministre de l'hostie, ministre du Sacré-Cœur, et vous serez un bon prêtre, vous serez un saint prêtre. Et si jamais dans votre vie, vous étiez tenté par peut-être la fatigue, le découragement, l'amertume, cela peut venir à certains moments, car il est dur d'être prêtre, et les âmes que nous voudrions convertir sont parfois lentes à se convertir, et on se dépense, on se fatigue. On s'exténue pour les âmes et parfois on est même persécuté, parfois, vous verrez. C'est peut-être une des joies les plus amères, mais les plus joyeuses quand même, du prêtre, eh bien, c'est d'être persécuté par ceux pour lesquels on se dépense, d'être méconnu, d'être incompris, d'être critiqué, d'être calomnié peut-être par les âmes pour lesquelles on a tout quitté après Jésus-Christ, bien sûr. Vous connaîtrez sans doute des moments difficiles, des moments d'amertume, des moments peut-être de découragement. Eh bien, revenez vers l'hostie. Demandez à votre messe quotidienne, justement, eh bien, de vous redonner ce courage, vous redonner cette force, vous redonner peut-être un surcroît de confiance dans la toute-puissance de l'hostie, afin, eh bien, qu'elle vous rende la capacité d'être ce qu'est l'hostie, d'être ce qu'est Jésus-Christ, d'être pour les âmes et pour Dieu, d'être, et pour vous-même peut-être, d'être toujours la force et la bonté. La force et la bonté. Voilà peut-être les deux vertus du prêtre, la force et la bonté. La force de la foi. Le prêtre est un homme de foi. Et la bonté, bien sûr, le prêtre est un homme de miséricorde, fait pour la miséricorde. Eh bien, demandez à l'hostie de votre messe quotidienne de vous rendre, peut-être, si c'est nécessaire, de vous rendre un petit peu de cette force, de ce courage, pour continuer à marcher sur les sentiers difficiles, rocailleux, mais lumineux du sacerdoce. Considérez vos mains, elles sont toutes puissantes. Et le prêtre, Le prêtre est l'homme le plus puissant de la terre. Si à certaines heures vous vous sentez abattu, vous vous sentez presque vaincu, bien rappelez-vous que le prêtre est l'homme qui ne connaît jamais la défaite. Pas plus que Jésus-Christ. Le prêtre ne peut pas connaître la défaite. Le prêtre n'est jamais vaincu. Le prêtre est l'homme de toutes les victoires. Il n'y a pas de victoire sur la terre sans le prêtre. Oui, rappelez-vous qu'il n'y a pas de saint au paradis qui ne doive sa sainteté et qui ne doive son paradis au ministère d'un prêtre. Tous les saints du paradis, les plus grands saints qui sont au paradis, ceux que vénère l'Église, ceux dont l'Église chante la gloire et la sainteté, eh bien, sont au paradis parce qu'un prêtre s'est trouvé là pour les mettre sur la route, les conduire au paradis. Alors cela vaut bien, à certaines heures, de verser quelques larmes peut-être, ou certaines gouttes du sang de son cœur d'homme. Alors soyez courageux, soyez forts, vous le serez sans doute, je le pense, mais nous prierons pour vous, en tout cas, pour que vous soyez cet homme tout-puissant, cet homme des victoires, le prêtre des victoires. Et si vous avez besoin encore d'une aide, si l'hostie, ce qui est peu probable, si l'hostie n'arrivait pas à elle seule, eh bien, à vous remettre en route à certains moments, eh bien, tournez-vous toujours vers Notre-Dame. Bien sûr, la très sainte Vierge Marie, qui est la mère du prêtre, comme elle est la mère de l'hostie, comme elle est la mère du Sacré-Cœur, Notre-Dame. Ainsi qu'on nous l'a rappelé hier, c'était la devise de Monseigneur de Castromayer, Ipsa Conteret. Rappelez-vous à certaines heures, eh bien si vous êtes face à une âme qui ne veut pas se convertir, une âme qui ne veut pas se laisser toucher par la grâce, eh bien c'est parce que le démon est là. Eh bien, il y en a une qui est toute puissante contre le démon. Si vous, vous n'arrivez pas à terrasser le démon, malgré tous vos efforts, vos prières et les messes que peut-être vous célébrerez pour cette âme, eh bien, faites intervenir, effacez-vous et faites intervenir la très sainte Vierge Marie, ipsa conteret. Elle écrasera la tête du démon et à ce moment-là, eh bien, votre sacerdoce pourra conduire cette âme qui vous résistait, pourra conduire cette âme donc vers la grâce et vers la voie de la sainteté. Voilà, confiez votre sacerdoce à la très sainte Vierge Marie, mère du Sacré-Cœur, tous ensemble bien sûr. Nous la prions pour vous, qu'elle vous garde sur les chemins du sacerdoce, qu'elle vous garde sur les chemins de la fidélité, fidélité dans notre société, fidélité. Bien, fidélité peut-être tout simplement, si vous voulez un dernier exemple très simple et très accessible, fidélité à être ce qu'a été notre fondateur. Soyez le prêtre comme l'a été Monseigneur Lefebvre. Est-ce qu'il y en a un autre dont on peut dire de lui qu'il fut la force et la bonté? Est-ce que précisément il n'a pas vécu jusqu'à l'héroïsme, jusqu'à la fin de sa vie, ce grand mystère de l'hostie, une force très sereine? Une force très intrépide, une force que rien n'a pu faire fléchir, n'a pu faire dévier, car cette force, en fait, c'était sa foi. Mais quelle bonté. Regardons, justement, dans le monde, tout ce bien qui se fait grâce à l'œuvre entreprise par Monseigneur Lefebvre. Toutes ces âmes qui connaissent la vérité, toutes ces âmes qui connaissent la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Jésus-Christ, grâce au combat de Monseigneur Lefebvre, eh bien, soyez tout simplement un prêtre comme l'a été Monseigneur. Nous le prierons également, bien sûr, pour vous, qu'il vous bénisse du haut du ciel, ou très certainement, il est aujourd'hui qu'il vous bénisse et qu'il vous communique un peu de son esprit qui n'est autre que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Sacré-Cœur, l'esprit de l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Sur la baptême avec l'hostie, à notre Père offrant nos cœurs, consacrons-lui notre humble vie, tous nos instants, tous nos larmes. Comme le prêtre en son calice, laissons aussi nos gouttes d'eau, le plus modeste sacrifice devient alors un pur joyau. opère déjà sur la patrie. Changez en vous nos pauvres cœurs.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'Abbé, bien chers fidèles, il est difficile aujourd'hui, en cette fête dimanche du bon pasteur, eh bien de ne pas penser à ce bon pasteur que le bon Dieu nous avait donné, et que le bon Dieu nous a repris, sans nous le reprendre complètement quand même. Ce bon pasteur, oui, mon Seigneur était le bon pasteur, ce bon pasteur qui est venu au secours de nos âmes alors qu'elles étaient égarées par tous ces pharisiens qui infestent notre Sainte Église, ce bon pasteur dont nous avons reconnu la voix, parce que sa voix était celle de Jésus-Christ, n'était que l'écho de la voix éternelle de l'Église. Oui, les brebis ont reconnu sa voix et nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi, non pas tellement parce qu'il était lui, mais parce qu'il était l'écho de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons suivi parce que nous savions qu'il voulait nous mener à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il connaissait ses brebis l'ont reconnu, ses brebis l'ont suivi. Il a donné sa vie pour ses brebis, n'en doutons pas. Toute sa vie a été consacrée précisément à venir à l'aide de ses brebis égarées, que ce soit les brebis de France, les brebis d'Afrique, ou bien les brebis du monde entier dans la dernière partie de son existence, et surtout depuis ce funeste et terrible concile Vatican II. Oui, le bon pasteur, et qui a consacré toute sa vie précisément a donné à l'Église d'autres pasteurs, de bons pasteurs. Et ça a été là peut-être le couronnement de sa carrière, le couronnement de sa vie, la fondation de cette œuvre sacerdotale, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, pour la rénovation du sacerdoce. Notre fraternité, nous le savons, vous le savez, n'a pas d'autre but, d'autre finalité que le sacerdoce. Et nos sœurs elles-mêmes, nos chères sœurs, eh bien n'ont pas d'autre but que de travailler, d'aider également à la rénovation du sacerdoce, afin que les brebis puissent retrouver et suivre le bon pasteur, l'éternel pasteur. Et ce cher Monseigneur, eh bien, a voulu précisément nous laisser une sorte de testament spirituel, ce n'est pas ainsi qu'il l'a nommé, mais c'est un peu son testament. Et dans cet itinéraire spirituel qu'il a voulu écrire quelques mois avant de nous quitter, il me semble qu'il nous a laissé dans un petit passage le condensé de son âme, le condensé de son intention. Voici ce qu'il nous disait. On peut dire en vérité que tous les bienfaits de la chrétienté viennent de la croix de Jésus et de Jésus crucifié. Voilà la voie du bon pasteur. Voilà la voie du bon pasteur. Et voilà, hélas, ce que ne disent plus aujourd'hui les pasteurs, ceux qui se disent du moins les pasteurs de nos âmes. Oui, tous les bienfaits de la chrétienté viennent de la croix de Jésus et de Jésus crucifié. C'est une résurrection de l'humanité déchue grâce à la vertu du sang de Jésus-Christ. Ce programme merveilleux, élaboré par la sagesse éternelle de Dieu, ne pourrait se réaliser sans le sacerdoce, dont la grâce particulière est de perpétuer l'unique sacrifice du calvaire, source de vie, de rédemption, de sanctification et de glorification. Le rayonnement de la grâce sacerdotale, c'est le rayonnement de la croix. Le prêtre est donc au cœur de la rénovation méritée par notre Seigneur. Son influence sera déterminante sur les âmes et sur la société. Voilà pourquoi Monseigneur Lefebvre a voulu fonder précisément une œuvre sacerdotale et des séminaires. Car l'homme qui aujourd'hui est le plus nécessaire aux hommes de notre temps, eh bien c'est le prêtre. Bien sûr, il nous faut des familles chrétiennes, bien sûr, il nous faut des travailleurs chrétiens, des hommes politiques chrétiens, des penseurs chrétiens, bien sûr, il nous faut tout cela, mais tout cela ne servirait à rien sans le prêtre, qui seul a le pouvoir de faire descendre sur la terre et dans les âmes la grâce, la vertu, la force, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nécessité du prêtre, nécessité du saint prêtre, nécessité de beaucoup de saint prêtre. C'est pourquoi, eh bien, c'est bien volontiers que j'ai répondu à l'invitation de notre cher abbé Maré de venir aujourd'hui vous parler un peu du prêtre. J'aurais voulu amener avec moi nos séminaristes d'Écône, mais leur fin de trimestre a été un peu mouvementée, un peu bouleversée, et j'ai pensé qu'ils avaient mérité quelques repos. C'est pourquoi, eh bien, je suis seul aujourd'hui pour vous parler un peu du prêtre, vous parler un peu de cette œuvre des séminaires, de ce que nous essayons de faire dans nos séminaires, et vous demander votre aide. Vous demander votre aide, non pas tellement, bien sûr, cela est toujours le bienvenu, l'aide matérielle, bien sûr, il faut aider les séminaires, car tout cela coûte bien cher, mais je suis venu surtout solliciter l'aide de vos prières. Priez, priez pour vos prêtres. Sans doute vous le faites déjà, mais priez beaucoup pour vos prêtres, car il est bien d'avoir des prêtres, mais il est surtout bien, il est surtout nécessaire d'avoir de saints prêtres. Et un prêtre qui n'est pas saint, disait un grand auteur spirituel, un prêtre qui n'est pas saint est un monstre, dans l'ordre de la grâce. Alors priez beaucoup pour que nous ne soyons jamais des monstres. Oui, priez pour la sainteté de vos prêtres. Et puis, priez également, priez pour avoir le courage de préparer à l'Église des prêtres. Et là, je m'adresse peut-être un peu plus aux parents, bien sûr, aux jeunes, aux enfants. Car il ne faut pas avoir peur du sacerdoce. On peut parfois se poser quelques questions. Pourquoi si peu de vocations? Bien sûr, nous avons des vocations. Bien sûr, nous avons des rentrées dans nos séminaires. Mais pourquoi nos séminaristes ne sont-ils pas plus nombreux? Nos séminaires devraient être trop petits, devraient craquer sous la demande, sous la présence de trop nombreux séminaristes. Et pourquoi nos séminaires ne sont-ils pas plus pleins qu'ils ne le sont? Eh bien, peut-être parce que, et c'est cela que j'aimerais vous aider à dissiper, parce que peut-être trop d'illusions règnent dans nos esprits sur la nature du sacerdoce, sur la nature de la vocation. Il ne faut pas avoir peur de préparer les enfants, de préparer les jeunes au sacerdoce. On voit des parents chrétiens déployer des trésors d'ingéniosité, dépenser même beaucoup d'argent, accepter beaucoup de sacrifices pour préparer leurs enfants à des carrières administratives, des carrières politiques, des carrières militaires ou je ne sais quoi. Et on voit hélas peu de parents déployer autant d'efforts et accepter autant de sacrifices pour préparer leurs enfants à la carrière, si l'on peut appeler cela une carrière ecclésiastique, la carrière sacerdotale. Pourquoi cela? Eh bien, peut-être, oui, quelques illusions. Quelques illusions qui viennent peut-être de la sublimité, de la grandeur du sacerdoce. Il est vrai que le sacerdoce est quelque chose d'immense, quelque chose dont tout homme est radicalement indigne. Aucun homme ne peut dire « je suis digne du sacerdoce ». Cela est impossible, cela serait un mensonge et un crime d'orgueil que de dire une chose pareille. Personne n'a jamais et ne sera jamais digne du sacerdoce. Donc il ne s'agit pas d'attendre que les enfants ou que les jeunes gens soient des saints pour les conduire et les guider vers le séminaire, certainement pas. Il suffit qu'ils aient quelques dispositions, quelques bonnes volontés, quelques capacités. Certains également s'imaginent peut-être ou vivent dans cette illusion que la vocation est quelque chose d'un peu extraordinaire, et on entend des parents dire, on ne sait trop pourquoi, mais mon enfant n'a pas la vocation. J'aimerais bien que mon fils soit prêtre, mais c'est bien dommage, il n'a pas la vocation. On a l'impression que la vocation est une sorte d'être sublunaire qui tombe comme ça sur un enfant au hasard des décisions de la Providence, ou au hasard des décisions, au hasard tout simplement des événements de l'existence. Non, la vocation n'est pas quelque chose qui vient comme cela de l'extérieur de l'enfant. La vocation, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà, si l'on peut dire, pré-contenu dans l'âme, dans la nature d'un enfant ou d'un jeune homme. Qu'est-ce que la vocation? Qu'est-ce que cette chose que l'on appelle la vocation? Eh bien, nous aurons la réponse lorsque nous aurons répondu à cette autre question. Qu'est-ce que le prêtre? Qu'est-ce que le prêtre? Un enfant disait du prêtre, le prêtre, c'est l'homme, c'est un monsieur qui dit la messe. Et voilà, je crois, effectivement, peut-être la plus belle des définitions du prêtre. Le prêtre, c'est un monsieur qui dit la messe, tout simplement. Mais qu'est-ce que cela signifie que de dire la messe? Eh bien, cela signifie d'abord d'être l'homme de Dieu. Je crois que le prêtre, ou le futur prêtre, ou le candidat au sacerdoce, est d'abord, doit être d'abord, un homme de foi. Un homme de foi, un homme qui croit tellement en Jésus-Christ, qui croit tellement dans la vérité de l'Évangile, eh bien qu'il devient amoureux de Jésus-Christ. Oui, le prêtre doit d'abord être un amoureux de Jésus-Christ. Un jeune homme, un enfant qui a succombé, si l'on peut dire, à la séduction de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut pas regarder un crucifix, qui ne peut pas regarder le Sacré-Cœur sans se dire « ce n'est pas possible qu'il ait fait tout cela et que moi ». Je ne fasse rien pour l'aider, pour continuer l'œuvre du salut des âmes, l'œuvre de la rédemption. Oui, le prêtre est d'abord l'homme de Dieu. C'est l'homme donc de l'intimité avec Dieu, l'homme de l'amour de Dieu, l'homme de l'union à Dieu. Et c'est donc l'homme ou l'enfant ou le jeune homme qui va accepter précisément de se séparer, de s'éloigner du monde, de se séparer de ce qui l'empêche d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu avec toutes les forces de son âme. Mais cette séparation, il la fera paisiblement, il la fera facilement, tellement, tellement. Il est saisi par l'amour de Jésus-Christ. Oui, le prêtre est d'abord l'amoureux de Jésus-Christ. Et qui alors consent précisément à s'isoler de cœur de toute affection terrestre, qui consent à se libérer de tout lien naturel pour être exclusivement homme spirituel, homme de Dieu. Oui, le prêtre est d'abord, doit être d'abord l'adorateur, l'homme de la gloire de Dieu, l'homme du Gloria in excelsis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis. Oui, l'homme épris de la gloire de Dieu. Prenons garde à cela. Ne croyons pas que le prêtre, et c'est souvent une notion fausse que nous pouvons avoir du sacerdoce, que c'est l'homme qui court dans tous les sens, qui va voir les fidèles dans tous les coins de la planète, ou de la Suisse, ou de je ne sais où. Non, ce n'est pas d'abord cela. Le prêtre, c'est d'abord l'homme de l'adoration, l'homme de la messe, l'homme de la louange divine. Le cœur de la vie du prêtre, c'est l'autel de sa messe quotidienne et c'est son bréviaire. Voilà où se déroule l'essentiel de la vie du prêtre. Alors il est certain qu'il faut d'abord, pour être prêtre, eh bien, aimer Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ et vouloir prier Jésus-Christ, avoir un certain goût ou certaines dispositions pour la prière. Il ne s'agit pas d'être des grands mystiques, d'avoir des grandes révélations ou des grandes extases, certainement pas. Et si cela peut vous rassurer, je n'en ai moi-même jamais eu. Non, ce n'est pas cela le prêtre. Non, c'est d'abord l'homme de la prière, l'homme qui veut chanter la gloire de Dieu. Et puis c'est ensuite l'homme qui saisit par la beauté, par la bonté, par la gloire de Dieu, eh bien veut transmettre cela aux hommes, qui est également saisi par le drame des âmes, le drame de ces âmes ravagées par le péché originel, ravagées par tous leurs péchés personnels, et qui veut aller au secours de ces âmes, et qui veut aider les âmes à sortir de leurs péchés pour chanter dans l'éternité la gloire de Dieu. Et c'est donc l'homme qui va d'abord, et ce sera la première fonction du prêtre, après la fonction de la prière, après la fonction de la glorification de Dieu à l'autel de la messe ou dans l'office divin, eh bien c'est l'homme qui va prêcher, c'est l'homme qui va enseigner, qui va aller vers les âmes pour leur dire, pour leur redire ce que Jésus-Christ leur a dit pendant toute sa vie terrestre. Le prêtre, c'est ensuite l'organe de Dieu pour engendrer la foi dans les âmes. L'homme qui veut faire entendre aux hommes le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile. C'est donc le prédicateur. Et prenons garde également à cela. Je ne sais pas si tous les fidèles, ni même si tous les prêtres, ont de leur sacerdoce une juste notion. Le prêtre est d'abord l'homme de la prière, et c'est ensuite l'homme de la prédication, l'homme de l'enseignement. L'enseignement dans la prédication, au cours de la messe dominicale ou les jours de grandes fêtes, bien sûr, mais l'homme de l'enseignement par les catéchismes, bien sûr, l'homme de l'enseignement par les conférences, voire par l'écrit, par l'article, par le journal, par les livres, etc., c'est l'homme qui enseigne, l'homme, le prêtre, est l'homme qui prie, et c'est l'homme qui, ensuite, étant ainsi fécondé par le Verbe de Dieu, va redire aux hommes eh bien, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris de la parole de Dieu. C'est l'homme qui enseigne. Et ce n'est qu'enfin, troisième fonction du prêtre, mais la dernière, et la fonction qu'il ne peut pas exercer s'il n'a pas d'abord prié et s'il n'a pas d'abord enseigné, c'est l'homme qui va donner aux âmes les sacrements, la vie de la grâce, que ce soit l'Eucharistie, bien sûr, que ce soit l'absolution, que ce soit le baptême, que ce soit l'extrême-onction, tous ces sacrements que le prêtre donne, bien sûr, aux âmes, il ne peut les leur donner que si d'abord il a fait naître la foi dans ces âmes, si ces âmes sont disposées à recevoir la grâce. À quoi servirait de donner un baptême à une âme qui n'est pas prête à le recevoir ? Ou dont les parents demandent ce baptême sans y croire véritablement. À quoi servirait de donner des absolutions si les âmes ne sont pas véritablement contrites, si vraiment elles ne regrettent pas leurs péchés, si vraiment elles n'ont pas compris la beauté, la bonté de Dieu et l'horreur de leurs péchés? À quoi cela servirait-il? À rien. Il faut d'abord enseigner les âmes. Et il faut donc d'abord s'être mis soi-même à genoux, au pied du tabernacle, pour être capable de dire aux âmes ce que Dieu veut leur dire, leur faire entendre le discours et la parole de Dieu, et non pas sa propre parole. Oui, le prêtre est enfin, bien sûr, le sanctificateur, l'instrument de Dieu pour la distribution de la grâce. Et tout cela, effectivement, bien, se réduit à la messe. La messe qui est d'abord la grande oraison du prêtre, la grande oraison de l'Église, la grande oraison de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe au cours de laquelle le prêtre vit dans la plus grande intimité qui soit possible avec notre Seigneur Jésus-Christ. La messe au cours de laquelle également le prêtre donne aux âmes la parole de Dieu, ne serait-ce que par le chant de l'Épître, le chant de l'Évangile, ou par la prédication. Le prêtre, là, donne donc aux âmes, fait entendre aux âmes la parole de Dieu et la messe qui se conclut par la fonction de la sanctification, par le don aux âmes de la Sainte Communion, le don aux âmes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le don de l'Eucharistie. Oui, le prêtre, c'est l'homme de la messe. Et donc, si nous avons compris ce qu'est le prêtre, homme de prière, homme de prédication, et homme de sanctification, instrument de la sanctification des âmes, eh bien nous comprenons quelles sont les dispositions qui sont nécessaires à l'enfant ou au jeune homme pour espérer devenir prêtre un jour, pour décider de devenir prêtre un jour, si du moins l'Église y consent, si l'Église le veut bien. Eh bien ces dispositions se ramènent à deux, selon le grand docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, ces dispositions se ramènent à deux. Il n'est pas nécessaire d'être un grand saint, mais il est nécessaire d'avoir une certaine bonté de vie, une certaine qualité de vie. Il faut avoir un certain degré de vertu. Surtout, quelle est la vertu peut-être la plus nécessaire au prêtre ou au futur prêtre? Eh bien, c'est la vertu de foi. Il faut croire, il faut être un homme de foi, croire en Jésus-Christ, croire en la grâce, croire en la toute-puissance de la grâce, croire, hélas, aussi au péché originel et à la misère dans laquelle vivent les âmes. Il faut être donc un homme de foi. Être un homme de foi, et puis un homme de vertu, mais je dirais simplement des vertus chrétiennes, vertus de chasteté, bien sûr, vertu de pureté, mais tout chrétien doit être un homme chaste, un homme pur. Vertu de pauvreté, être capable de renoncer, de se détacher des biens de la terre, mais cela aussi, tout chrétien doit vivre ce renoncement, au moins intérieurement, être détaché des biens de la terre. Et les vertus nécessaires aux prêtres, mais ne sont pas autre chose que les vertus nécessaires aux chrétiens. Mais il faut les posséder peut-être avec une stabilité, une fermeté, une force un peu supérieure sans doute. Mais ces qualités qui sont requises ne sont pas des qualités extraordinaires. Et beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants possèdent les qualités nécessaires pour faire de bons et de saints prêtres. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas dire oui ? Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre justement une sorte de message extraordinaire qui viendrait on ne sait d'où ? Non, non, il suffit de considérer un petit peu quelles sont les qualités dont Dieu nous a pourvus. Est-ce que ces qualités, eh bien, ne me disposent pas ? Si l'Église y consent, si l'évêque m'y appelle, est-ce que ces qualités ne me disposent pas à être moi aussi un bon pasteur à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ ? Qualité de vertu, donc, et puis une autre qualité nécessaire également, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle la science suffisante. Science suffisante, dit-il. Il ne s'agit pas d'être un génie, d'être un grand intellectuel, oh non. Je dirais même que Dieu nous préserve des prêtres qui sont trop savants, que Dieu nous donne plutôt des prêtres simples, des prêtres intelligents, bien sûr, qui ont compris le dépôt de la foi, qui ont compris la révélation et la parole de Dieu, et qui soient capables tout simplement de la répéter et de l'expliquer aux âmes. Il n'est pas nécessaire donc d'avoir de grands diplômes et d'être des génies, non, certainement pas. Il faut croire et être capable d'expliquer, d'exposer, de commenter cette foi aux âmes pour engendrer la foi dans les âmes des enfants, dans les âmes des grandes personnes. Voilà toutes les dispositions qui sont requises du prêtre. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de candidats au sacerdoce? Je ne sais, je vous laisse répondre. Mais que chacun examine au fond de soi-même si ce qui le retient, s'il s'agit de jeunes gens ou d'enfants, si ce qui le retient de penser au sacerdoce, ou bien s'il s'agit de parents, ce qui le retient de peut-être de guider ou de donner à leurs enfants l'idée du sacerdoce, eh bien, est-ce que ça n'est pas un certain attachement au monde, un certain attachement à un certain bien-être, à un certain confort? Il est sûr que pour être prêtre, c'est renoncer à beaucoup de choses, c'est renoncer à toute une série de conforts, à beaucoup de bien-être, mais je puis vous faire, si cela peut vous rassurer, si c'est renoncer à beaucoup de choses, il n'y a qu'une chose, une seule chose, à laquelle le prêtre ne renonce pas, une seule chose à laquelle il ne peut pas renoncer, eh bien c'est le bonheur. Oui, le prêtre est peut-être, au-delà de tous ces renoncements humains auxquels il a consenti, le prêtre est peut-être l'homme le plus heureux de la terre. Parce qu'il a la joie, chaque jour, eh bien d'engendrer notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de la messe. Il a la joie, chaque jour, de vivre dans cette intimité inouïe, extraordinaire, que l'on ne peut pas expliquer, cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a la joie, chaque jour, quasi quotidiennement, d'assister, d'être l'artisan de la résurrection des âmes. Il a la joie, chaque jour, de conduire les âmes vers les pâturages éternels, vers le bonheur éternel. Voilà toute la grande joie du prêtre. Voilà ce bonheur du prêtre auquel il ne renonce pas, auquel il ne peut pas renoncer. Il n'y a pas sur terre de plus grande joie que la joie du prêtre. Alors, eh bien, prions, oui, prions pour que nous ayons beaucoup de vocations, beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres. Et s'il fallait résumer peut-être un peu ce qu'est le prêtre, mais il me semble que nous pouvons le comparer un petit peu à la très sainte Vierge Marie. Oui, pourquoi pas? Oui, le prêtre reproduit en lui-même, en quelque sorte, le mystère de la très sainte Vierge Marie. Par sa prière quotidienne, il permet au Saint-Esprit d'engendrer en lui notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Par sa prière quotidienne, son oraison, sa messe, son bréviaire, eh bien, il permet au Saint-Esprit petit à petit de faire de lui, il lui permet de faire de lui un nouveau Jésus-Christ, un alter Christus. Et puis ensuite, eh bien, comme la Vierge Marie, quel va être le rôle du prêtre? Donner Jésus-Christ aux hommes, leur donner Jésus-Christ, que ce soit par la parole, que ce soit par la distribution des sacrements. Oui, prions Notre-Dame, prions notre Seigneur Jésus-Christ, prions Notre-Dame surtout, peut-être la mère du souverain prêtre, Reine Marie, Reine du clergé, de nous donner beaucoup de vocations. Vous avez besoin de prêtres, nous avons tous besoin de prêtres, besoin de saints prêtres, et bien que Notre-Dame fasse naître dans vos âmes le désir du sacerdoce, dans vos âmes peut-être, dans vos familles, afin que tous, eh bien vous travaillez autour de vous à conduire des âmes à l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.